mon propos va essentiellement concerner la purification de l'espace. Donc, je ne vais pas véritablement parler de thématiques médicales et du corps, mais de la purification de l'espace, point que les ecclésiastiques du Moyen-Âge abordent avec le verbe « mundare ». Ma réflexion va essentiellement tourner autour de ce point-là, et en particulier de ce verbe. Au Moyen-Âge, parmi les pratiques ecclésiastiques de l'espace, la consécration liturgique occupe une bonne place. En mettant en forme et en scène ce rituel pour les églises et pour les cimetières, les évêques créent des lieux consacrés qu'ils soustraient du monde profane. Purifiée des affres profanes et séculières, l'église devient la maison de Dieu et le cimetière devient la dernière demeure des bons fidèles chrétiens. L'apparition du rite de consécration dans le pontifical, dans ce livre de l'évêque, ainsi que dans les sources conciliaires et synodales, montre que le statut des églises et des cimetières est non seulement sacré et ritualisé, mais également institutionnalisé. Les sources écrites mentionnent toutefois que les lieux consacrés peuvent être souillés, pollués, disent les textes, par des actes, mais aussi par des corps. On entend par corps, certes, l'ensemble anatomique qui constitue un être humain, ainsi que les matières et les substances provenant de celui-ci, mais également les objets inorganiques et inanimés qu'il peut utiliser. Là où les souillures engendrées par ces actes et ces corps sont extrêmement graves pour les lieux consacrés et par répercussion, bien sûr, pour le devenir de l'âme des fidèles chrétiens. La pollution entraîne un arrêt des inhumations pour le cimetière et une interruption de tous les offices divins pour l'Église. En s'intéressant aux causes qui engendrent une souillure et en étudiant les conséquences de celle-ci, essentiellement à travers l'idée de contagion et de contamination, les ecclésiastiques parlent de contaminatio, on en vient à s'interroger sur les modalités de ce que les textes nomment la réconciliation liturgique des églises et des cimetières. Lorsqu'elles évoquent cet aspect de la liturgie chrétienne, les sources textuelles font référence à un acte de purification, c'est-à-dire à l'acte rituel qui permet, pour l'instant je vais prononcer ce mot-là entre guillemets, de retirer les souillures d'un espace afin de le rendre de nouveau homogène et propre à assumer ses fonctions. Comme je l'ai dit, si mon discours ne sera pas foncièrement médical, il envisagera bien les actes de réconciliation comme des soins apportés à l'église et aux cimetières pollués, comme la volonté de veiller au bon état et à l'entretien des lieux. Il est vrai que les mots employés par les liturgistes et par les canonistes appartiennent bien au champ lexical de la purification, de la guérison et du soin. Mon propos gardera une logique quelque peu naïve. Je partirai dans un premier point de ce qui salit un espace, en m'intéressant donc d'abord aux actions, aux agents, plutôt même pathogènes, pour reprendre les mots de Vladimir Jankélévitch, pour ensuite m'engager sur la voie de la contagion et de son éviction, et enfin finir par les formes de purification mises en place par l'Église. Témoins de la réalité contemporaine, les registres de comptabilité de l'archevêché de Bordeaux, que j'ai pu étudier donc dans le cadre de ma thèse, constituent souvent la base de ma réflexion. Parmi les causes enregistrées figurent des effusions de sang, des inhumations d'excommuniés, mais également des actes jugés profanes. Je vais d'abord m'intéresser aux inhumations d'excommuniés qui sont donc considérées comme des souillures du cimetière, mais également de l'église. Sur les registres que j'ai pu étudier, de 1332 à 1378, trois cas sont rapportés dans des petits chapitres de ces comptes de l'archevêché. Ces registres sont assez stéréotypés, on y retrouve toujours la date de pollution, la localité, la cause de cette pollution, donc la plupart du temps on va retrouver le nom de l'individu du mauvais chrétien inhumé dans ce cimetière, il est la plupart du temps nommé excommunié, mais on peut aussi avoir un petit peu plus de renseignements, comme par exemple ici pour Pierre Mars, qui est qualifié de voleur. On va y retrouver la mention d'une amende, que le prêtre de paroisse est obligé de payer, puisqu'il a accepté la sépulture de cet excommunié. On va retrouver d'autres informations complémentaires, comme par exemple la date de réconciliation du cimetière ou l'envoi, par exemple, d'un agent de l'évêque. Ces registres permettent surtout de s'interroger sur le respect des règles émises par l'Église, mais aussi sur l'affirmation et l'autorité du pouvoir épiscopal ou archiépiscopal. La perception des amendes permet donc de certifier, dans plusieurs cas, au niveau de la quantification, que la réconciliation a été opérée, et la plupart du temps, ce qui permet de le dire, c'est que ces chapitres ont été, hein, vous le voyez ici, rayés. Hein, on comprend donc que la réconciliation a été opérée. Si les mauvais morts souillent un cimetière, certaines dépouilles empêchent également de consacrer une église. À l'extrême fin du XIIIe siècle, Guillaume Durand, dans son Rationnel des divins offices, expose que l'inhumation d'un infidèle, d'un païen ou d'un excommunié empêche la consécration d'une église. Il demande, je le cite, que les cadavres soient enlevés, les murs contaminés détruits ou l'espace réconcilié avant que ne soit opérée la sacralisation. Ces prescriptions ne sont en fait pas nouvelles, hein. On les retrouve déjà au milieu du IXe siècle, comme par exemple dans le pénitentiel dit de Théodore, puis au XIe, XIIe siècle, par exemple dans les œuvres de Bouchard de Worms, d'Yves de Chartres ou de Gratien. À première vue, il existe donc une incompatibilité entre certains corps jugés impurs et certains lieux purifiés par le rite liturgique de consécration. En se référant à des passages vétérotestamentaires, en particulier au livre des Nombres et au passage qui concerne la souillure du prêtre qui touche un corps mort, les ecclésiastiques suggèrent qu'un corps, parce que porteur des fautes commises, peut polluer un cimetière ou une église. Il est alors nécessaire d'évincer cet objet et surtout de l'éloigner. Les liturgistes et les canonistes qui réfléchissent à la pollutio par des corps impurs s'interrogent de la même façon à des actes qui souillent ces lieux. Si je reprends le registre des comptes qui rapporte sur 90 réconciliations, 28 cas de purification de lieux contaminés par des violences et par des effusions de sang. Alors les registres sont assez laconiques, je n'arrive pas forcément à étudier les causes de ces débordements, ni même les déroulements, il n'y a que deux cas qui sont assez précis. Par exemple, en 1341, on a une dispute conjugale au sein d'un cimetière, madame a été un peu violente avec monsieur, et en 1342, on a une agression d'un prêtre qui était en plein office. Voilà, ce sont les seules mentions précises que je peux avoir. En plus des effusions de sang évoquées dans ces registres, les sources normatives et liturgiques font état d'autres actes qui sont considérés comme polluants, comme par exemple les vols et les adultères commis dans les églises et dans les cimetières. Les effusions de sang et les homicides sont quand même les cas les plus développés par la documentation. Alors je vais vous donner un petit exemple, on est ici au XIe siècle, c'est un exemple issu de la chronique d'Adhémar de Chabannes qui rapporte la réconciliation de l'église abbatiale Saint-Martial de Limoges. On est ici aux alentours des années 1017-1018. Il explique qu'en raison d'une grande affluence autour de la tombe du bienheureux évêque, le jour du carême, plus de 50 fidèles sont morts au sein de l'édifice. Ils sont tous ensevelis le lendemain de l'accident. La réconciliation du bâtiment a lieu 3 jours plus tard. Il précise que l'évêque de Limoges, Géraud, qui était à Rome, ne peut effectuer la réconciliation, et c'est un envoyé de l'évêque de Périgueux qui se charge, donc je le cite, de réconcilier l'édifice au moyen d'aspersion d'eau épiscopale. Si la réconciliation de l'Église paraît être une prérogative épiscopale, la présence physique de l'évêque, on le remarque, n'est pas nécessaire pour la réconciliation. Seule l'utilisation de l'eau bénite, j'y reviendrai, par la main épiscopale est obligatoire. Ce témoignage d'Adhémar de Chabannes montre qu'il est nécessaire de procéder à la réconciliation d'un édifice souillé de l'Église avant qu'elle puisse de nouveau accueillir des cérémonies liturgiques. Il est toutefois légitime de se demander si la violence de la mort est la cause de la pollution de cette église ou si le sang qui a coulé au sein de l'édifice est plutôt à l'origine de la pollution. Qu'il s'agisse des sources liturgiques, normatives ou autres, les écrits confirment que la réconciliation est obligatoire dans des lieux où ont été effectués de violents épanchements de sang. Dès le XIIe siècle, les pontificaux contiennent des ordinesses, hein, des chapitres de réconciliation d'édifices souillés par des effusions. Ces ouvrages liturgiques lient parfaitement les effusions de sang à la violence. Je vais prendre un exemple imagé avec une lettrine extraite du pontifical de Beauvais qui a été adaptée à l'usage de Lisieux. On est ici dans le deuxième quart du XIIIe siècle. Je vais quand même faire un petit zoom sur cette image qui est placée en tête de l'ordo de réconciliation de l'église polluée. Cette scène se déroule, hein, on le voit, on le comprend un petit peu, au sein d'une église. On retrouve une arcature, un chapiteau, et on voit ici un autel, hein, placé entre deux personnages qui se font face. Sur la gauche, on a un laïc qui tient une dague, et sur la droite, on a un évêque. Le laïc tient donc dans sa main droite une dague dont la lame est tachée de sang. Et on retrouve ce sang ici au pied de l'autel, et on voit bien d'ailleurs que le laïc a le pied dans cette flaque de sang. Ces éléments ainsi que la teneur de l'ordo de ce chapitre invitent à conclure à une effusion de sang provenant d'un homicide ou d'une quelconque agression physique. Rien ne permet cependant de certifier que l'effusion de sang a eu lieu dans l'église. La partie droite de cette initiale est occupée donc par un évêque. Il a, c'est le point important ici, dans sa main droite un goupillon qui lui sert à réaliser des aspersions d'eau bénite. L'auteur de l'initiale n'a pas accordé de place centrale au sang qui a coulé, mais plutôt à la dague. La place du goupillon sous l'arme invite à penser que les aspersions d'eau épiscopale doivent être réalisées là où le sang a souillé le sol de l'église. Là encore, face à cette initiale, devons-nous penser que la pollution de l'église est causée par l'acte violent ayant abouti à une effusion de sang ou par le sang lui-même ? À la fin du XIIIe siècle, Guillaume Durand accorde dans son Rationnel des divins offices une place à cette question. Pour l'évêque, il semble que ce ne soit pas le sang qui porte directement atteinte à l'espace, mais uniquement la violence du geste ayant provoqué l'effusion. Il précise alors, je le cite, qu'à la suite d'un saignement de nez ou de bouche sans violence, d'un afflux de sang provenant de menstrues ou d'hémorroïdes, ou encore d'un animal venu expirer dans l'édifice, il n'est pas nécessaire de purifier le lieu. L'auteur précise également que la réconciliation de l'Église ne doit avoir lieu que si l'acte impur et violent a été effectué au sein de l'édifice. La mort naturelle ou toute autre pratique funéraire entraînant par exemple le démembrement ou l'éviscération du corps ne s'accompagne d'aucune réconciliation. Si le rite liturgique s'apparente certes à la purification du lieu, il s'avère surtout être un moyen d'effacer, et là je reprends les mots de Guillaume Durand, l'horreur, l'abomination et l'injure de l'acte violent. La quantification des violences avec effusion de sang dans les églises et les cimetières au sein de l'archevêché de Bordeaux permet de voir que sur les 28 cas de violence avec effusion de sang, 14 sont perpétrés dans des cimetières, 7 dans des églises et 7 autres dans des églises et des cimetières. On se demande alors si ces lieux sont des lieux privilégiés pour se livrer à de violents règlements de compte. On sait qu'à l'époque médiévale, là je reprends les mots de Daniel Alexandre Bidon, le cimetière est un espace social, c'est-à-dire un lieu d'activité profane, mais aussi un lieu de résidence des vivants. Étant un espace fréquenté, on peut supposer que des querelles devaient éclater au sein du cimetière, entraînant parfois des altercations physiques et des effusions de sang. Il en va probablement de même pour l'église, espace communautaire et théâtre de la vie paroissiale par excellence. Si ces lieux sont aussi le théâtre de scènes de violence, c'est probablement, et là c'est un petit peu paradoxal, parce qu'ils jouissent d'un statut juridique permettant à celui qui s'y réfugie d'être à l'abri au sein d'une terre d'asile. Certains corps morts, ainsi que divers actes jugés impurs, souillent donc le cimetière et l'église. Leur consécration est en effet ébranlée par la pollution. Les liturgistes et les canonistes qui tentent de définir ce qui est impur appréhendent alors la contagion et ses diverses modalités. Leurs réflexions permettent de comprendre comment le cadavre d'un excommunié ou une agression entraînant une effusion de sang désacralise un cimetière et une église. L'église n'a cependant pas véritablement donné corps à l'impureté par le cadavre d'un mauvais chrétien et par le sang. Le péché, en se rapprochant de la moralité et de la conscience, est pour elle une souillure beaucoup plus importante. Un cimetière et une église ne sont donc a priori pas souillés par le sang d'une effusion, mais par l'acte pécheur ayant infligé la blessure. Par le péché, il faut bien sûr entendre l'intention ayant présidé au geste. Pour bien comprendre ces notions de souillure et de contagion utilisées dans ces textes médiévaux, il convient vraiment de se détacher de leur sens actuel, hein, tributaire d'esthétisme, d'hygiène et d'écologie. Il convient avant tout d'interpréter la recherche de la pureté comme une volonté spirituelle. La pollution et la violation renvoient, et là je reprends encore les mots de Vladimir Jankélévitch, à une action pathogène, dans laquelle l'idée d'une propagation négative est importante. Ce dernier, Vladimir Jankélévitch, souligne que le pur devient impur, non point par le mélange avec le pur, mais par la contagion de l'impur. Cette conception de la contamination est sous-jacente dans les textes dédiés à la réconciliation liturgique des espaces. En effet, les pontificaux des Xe, XIIIe siècles rapportent que lors des aspersions d'eau bénite effectuées par l'évêque, celui-ci doit se concentrer essentiellement sur les lieux souillés. À la fin du XIIIe siècle, Guillaume Durand insiste clairement sur la purification des endroits qui ont été contaminés. Le phénomène de contagion ne se mesure cependant pas uniquement à l'aune de la souillure et du lieu contaminé, il s'appréhende également en regard de la propagation à travers les lieux adjacents. À partir du XIIIe siècle, la proximité physique de l'église et du cimetière entraîne en effet des questionnements sur la contamination de l'espace cimétérial, par un édifice ecclésial souillé. En soulignant que chaque lieu jouit d'une consécration qui lui est propre, les liturgistes et les canonistes insistent sur le fait que la contamination de l'un n'engendre pas forcément celle de l'autre. C'est sans doute à Guillaume Durand, encore une fois, que revient l'approche la plus précise de la contagion. En rappelant que la procession à l'extérieur de l'église et les aspersions du cimetière lient les deux espaces, il rapporte que malgré le caractère connexe de ces deux lieux, je le cite, « si l'église est violée ou polluée, le cimetière qui lui est attaché est considéré lui aussi comme violé ou pollué. » Mais l'inverse n'est pas vrai, car l'Église et sa consécration sont plus dignes et principales. Une fois la souillure reconnue, la contagion constatée, l'espace consacré redevient un espace profane. Il devient alors nécessaire d'évincer les corps polluants. Les liturgistes et les canonistes s'attachent dans certains cas à montrer que le cadavre des mauvais morts est donc une cause de pollution. Leurs écrits attestent que la réconciliation doit, pour être une complète purification, être accompagnée d'une exhumation. L'exhumation est une action de déterrer un mort, ou dans une acception plus générale, de l'extraire de son lieu de sépulture. Si la pratique de l'exhumation est contrôlée dans certains cas et prohibée dans d'autres, elle peut être exécutée dans un cadre judiciaire précis, comme par exemple pour répondre à la pollution. Les récits sur les exhumations miraculeuses, c'est-à-dire, j'aurais pu aussi donner le titre pour ce paragraphe, « Quand l'église et le cimetière se défendent seuls ou se purifient tout seuls », les récits sur les exhumations miraculeuses rendent compte de toute une réflexion des ecclésiastiques sur la protection des espaces sacrés et consacrés, et cela depuis l'Antiquité tardive. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails car les récits sur les exhumations miraculeuses sont très nombreuses. Je vais juste insister sur deux temps forts, le premier entre le 6e et le 11e siècle qui correspond à la mise en place d'un discours, et non pas d'une discours, d'un discours sur la mort chrétienne, et un second temps entre le 12e et le 14e siècle qui correspond essentiellement aux enjeux de la prédication. Je vais quand même donner un exemple à mi-chemin entre ces deux temps forts. On est aux alentours de 1040 et dans la vie de Saint-Benoît par André de Fleury, qui indique qu'un dénommé Robert, qui appartient à une famille champenoise d'avoués, a usurpé certaines dépendances de l'abbaye de Fleury. Ce mauvais chrétien meurt étouffé par le diable et son corps, malgré son statut de mauvais chrétien, est inhumé au sein du monastère Saint-Pierre. Toutefois, le lendemain matin, son cadavre est retrouvé rejeté par la terre, expulsé de sa sépulture. Les proches de ce défunt ne comprennent pas l'éjection du cimetière et réinhument le cadavre. Ce miracle se répète trois fois, jusqu'à ce que la veuve du défunt fasse composer une cédule d'absolution qui est déposée sur la poitrine du défunt. Dans cet exemple, il apparaît bien que ce sont les actions coupables qui empêchent Robert de recevoir les honneurs d'une sépulture chrétienne. On comprend également, outre le discours sur la bonne mort chrétienne, que le corps du mauvais mort est porteur des actes polluants. Ce corps est donc déjà contaminé, mais hélas, il est également contagieux pour le reste de l'espace cimétérial. Alors, ce petit récit miraculeux, on le retrouve vraiment du 6e au 14e siècle, ce sont des récits très importants. On retrouve souvent les mêmes thématiques, l'éjection du corps trois fois, la famille qui ne comprend pas cette éjection. La plupart du temps, on a la composition d'une cédule d'absolution ou une réconciliation post-mortem. Donc, d'ailleurs, j'ai écrit d'ailleurs un article qui doit paraître bientôt, à la fin de l'année, sur ces récits miraculeux. Cette exhumation trouve quand même place dans la théorie, mais aussi dans la pratique. À ce titre, une décrétale papale de Grégoire IX demande à ce que le corps d'un excommunié soit exhumé et éloigné s'il a été inhumé dans une église ou dans un cimetière. Le texte suggère que dans le cas d'une décomposition charnelle avancée, les ossements soient repérés et soigneusement retirés de l'inhumation. Toutefois, dans le cas où les ossements sont mêlés de manière indistincte aux autres, il prévoit de laisser le corps en place, mais il faut que la réconciliation, les aspersions d'eau bénite, se concentrent vraiment sur le lieu où se situent ces ossements. Les décisions formulées dans cette décrétale ne sont en réalité pas nouvelles. On les retrouve au milieu du XIIe siècle déjà chez Gratien, qui mentionne lui aussi l'exhumation d'un corps qu'il trouve nécessaire s'il vient à polluer une église. Toujours au milieu du XIIe siècle, on retrouve la même chose par exemple chez le liturgiste Jean Bellette et à la fin du XIIIe siècle, sans surprise, chez Guillaume Durand qui opère le même rapprochement entre exhumation, purification et réconciliation. À l'instar de ces sources, certaines décisions conciliaires et synodales des XIIe-XIIIe siècles prévoient également une exhumation de corps accompagnée d'une réconciliation liturgique. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup. Pour la pratique de l'exhumation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va retrouver par exemple dans les écrits de Bernard Guy, qu'il s'agisse du manuel de l'inquisiteur ou du livre des sentences, la mention de l'exhumation de pièces osseuses qu'il peut agrémenter par exemple d'une incinération des pièces osseuses pour les hérétiques. Ces exhumations sont quand même donc une réponse à la souillure transmise par les dépouilles de mauvais chrétiens qui, en toute logique, normalement, n'aurait pas dû recevoir de sépulture au sein d'un espace consacré. Le corps de certains individus est donc contagieux parce qu'il transmet à l'espace au sein duquel il est déposé la souillure des mauvaises actions et des péchés dont il est imprégné. Afin que l'espace retrouve sa sacralité et sa pureté octroyée par le rite de consécration, l'exhumation permet, avant la réconciliation, d'éliminer l'objet, le corps, d'où provient la pollution. Lorsque le caractère consacré du cimetière et de l'église est pollué, le rite liturgique et solennel de réconciliation lui permet à la fois d'être, et là je reprends les termes des ecclésiastiques, lavé de la profanation et de nouveau béni. Le rite de réconciliation des églises polluées apparaît dans les témoignages écrits aux alentours du Xe siècle et pour le cimetière à partir des XIIe, XIIIe siècles. Je ne vais pas rentrer dans le détail du rituel liturgique, ça ferait l'objet d'une étude à part entière, je vais juste vous donner les thématiques essentielles qui reviennent. Les ordines contenues dans les pontificaux démontrent que l'évêque doit se charger de la réconciliation. Il s'agit d'une prérogative épiscopale, tout comme la consécration du cimetière. Les pontificaux sur lesquels j'ai pu travailler présentent tous approximativement la même formule, la même forme de cérémonie liturgique pour la réconciliation. Les seules différences notables proviennent d'ajouts qui ne modifient en rien le déroulement ni même le but de la cérémonie. Le rite se déroule donc devant une assistance active et se compose d'oraisons et de pièces chantées, essentiellement des psaumes et des anciennes. Si quelques pontificaux mentionnent la présence de reliques, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce qui est surtout obligatoire, c'est la présence donc de l'évêque qui doit être présent, qu'il doit pénétrer dans l'espace à réconcilier avec le clergé et avec des litanies. Il doit alors bénir l'espace au moyen d'aspersion d'eau bénite, de sel et d'un mélange de cendres et de vin, que les textes appellent eau grégorienne. On retrouve des éléments clés dans ce rituel, la bénédiction, les aspersions d'eau bénite, l'utilisation de sel, et donc de ce mélange de cendres et de vin, donc qui s'appelle l'eau grégorienne, et l'évêque doit faire trois fois le tour de l'église ou du cimetière, c'est cette procession in circuitu qu'a pu étudier aussi Michel Lowers. Certains éléments liturgiques sont donc analogues à ceux contenus dans les ordinaises de dédicace des églises et de consécration des cimetières. Cette observation autorise ainsi à qualifier la réconciliation tout simplement de nouvelle consécration. Certains chapitres de pontificaux ne parlent pas de réconciliation mais de reconsécration. Dans les pontificaux, les réconciliations d'églises et de cimetières font parfois l'objet de représentations imagées. Elles proposent toutes une mise en scène similaire, même si l'image médiévale n'est pas photographique, hein, là je reprends les termes de Michel Pastoureau, celle de la réconciliation cristallise quand même parfaitement certains éléments. On y retrouve la représentation de l'évêque, de l'église et ou du cimetière. On y retrouve tout le temps le signe de croix opéré par l'évêque et ou les aspersions d'eau bénite. Toutes les images sont donc relativement analogues. Au-delà de ce qu'elles représentent, elles structurent quand même visuellement le texte et agissent, on va dire, comme un titulus iconographique pour l'évêque qui retrouve très rapidement les éléments clés de son rituel. On peut toutefois noter que dans ce corpus d'images, il n'y a jamais la représentation de l'objet de la souillure. Pas plus que du lieu précis d'où provient la contamination, éléments qui sont pourtant le sujet de ces ordines. Pour le XIVe siècle, si je reprends les registres des comptes de l'archevêché de Bordeaux, on a la mention donc de réconciliation de lieux sacrés. En ce qui concerne les années pour lesquelles je disposais de registres, sur les 90 réconciliations opérées, 36 concernent des églises, 42 des cimetières et 10 des églises et des cimetières, tous répartis au sein du diocèse de Bordeaux. On peut aussi remarquer que les monastères ne sont pas épargnés. Ces registres ne mentionnent pas cependant que des réconciliations, ils exposent donc, comme je vous l'ai dit, les revenus qu'elles pouvaient engendrer, qui sont des gains assez importants quand même pour l'archevêché bordelais. Ces amendes permettent la plupart du temps de payer les frais de déplacement de l'archevêque ou de ses agents. Alors parmi ces agents, on peut trouver un procureur, un vicaire ou même l'official qui peut être dépêché pour procéder à la réconciliation. L'envoi d'agents suggère que la réconciliation est certes une prérogative épiscopale, mais surtout que l'évêque n'est pas obligé d'être physiquement présent lors de l'accomplissement du rite. Il peut être en effet remplacé par un tiers qui est temporairement investi de la charge, mais qui quand même le représente. Ainsi, par exemple, je prendrai juste cet exemple, en janvier 1360, l'évêque de Poitiers demande une dispense pour déléguer son pouvoir de réconciliation aux prêtres des lieux, où en raison du contexte dangereux, il faut comprendre la guerre de Cent Ans, il ne peut se rendre. Plusieurs évêques de Poitiers vont demander des dispenses. Les registres de comptes de l'archevêché de Bordeaux confirment d'ailleurs que des églises et des cimetières sont à cette époque le théâtre de violents combats, les églises servant, comme par exemple à Guitre en 1355, d'entrepôts pour les munitions. Elles sont donc souillées et elles doivent aussi être réconciliées. Donc là, il y a un objet qui est considéré comme contagieux, qui est juste déposé au sein d'un édifice, mais qui pollue l'édifice et qui doit donc être réconcilié. On peut aussi regarder du côté des visites pastorales, qui permettent également de compléter ce tableau sur la réconciliation des cimetières et des églises. En effet, les journaux de visite, par exemple pour les visites pastorales de l'archevêché de Bordeaux, insistent surtout sur la réconciliation des espaces au moyen d'eau bénite bénie, donc créée par l'évêque. On peut envoyer des agents de l'évêque, mais il faut que l'eau soit bénite par l'évêque. Encore une fois, l'évêque n'est donc pas obligé d'être physiquement présent lors de ces réconciliations. Pour conclure, je voudrais dire que, fortement lié au rite de réconciliation de l'église et de l'autel apparu au Xe siècle, celui de la réconciliation du cimetière semble voir le jour un petit peu plus tard, au XIIe siècle, mais surtout au XIIIe siècle. Sous l'impulsion de Guillaume Durand, le rite semble trouver une place plus importante dans les ouvrages liturgiques à partir de l'extrême fin du XIIIe siècle et surtout dans le courant des XIVe-XVe siècles. La création de ce rituel semble répondre à de nouvelles représentations et pratiques à la fois sociales et spatiales. Elle-même emprunte de nouvelles exigences normatives relatives à la pureté. Les documents liturgiques et les sources du droit canon témoignent en effet d'un changement de comportement de l'Église face à la pureté des espaces et surtout à sa pérennisation. Désireuse de garder intact le caractère consacré du cimetière et de l'église, pour parer essentiellement à la pollution, l'église se dote donc du rite liturgique de réconciliation, qui est une nouvelle prérogative épiscopale. On parlait de continuité hier ou de discontinuité, ici on est dans une nouvelle prérogative épiscopale. Ce rite liturgique prouve surtout que la consécration, que la pureté d'un lieu octroyé par consécration n'est pas immuable, qu'il faut défendre et conserver le caractère consacré, mais aussi, le cas échéant, le recréer. L'Église et ses évêques régulent donc la société chrétienne, créent un ordre en purifiant le désordre, et là je reviens encore une fois au verbe mundare, l'Église et les évêques soignent le monde. Je vous remercie.